Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, en version hors série, ici, pour partager avec vous, chaque semaine, dans leur intégralité, des entretiens avec des acteurs de l'actualité. Et je vous propose aujourd'hui le témoignage rare, exceptionnel, d'un pilote de chasse français, le commandant Burgui. En tout cas, nous l'appellerons ainsi pour des raisons de sécurité. Âgé de 35 ans, il fait partie de la 30e escadre de chasse habituellement basée à Mont-de-Marsan et actuellement engagée en Lituanie avec l'OTAN pour surveiller les frontières du flanc est de l'Alliance dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est dans le cadre de cette mission, à bord de son Rafale, qu'il s'est retrouvé face à des avions russes. Il s'est confié sur cet incident, sur sa mission aussi, au micro de l'envoyé spécial de RTL, Nicolas Burnand.
Commandant Burgui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des 6 pilotes de chasse de l'armée de l'air française déployés ici en Lituanie sur la base militaire de Chiolet. Quelle est votre mission précise ici ?
Eh bien, on reprend un peu la mission qu'on fait au-dessus du territoire français, mais dans un cadre otanien pour assurer la souveraineté des espaces aériens des pays baltes, donc au-dessus de la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Les pays baltes ont pas une armée de l'air aussi développée que d'autres pays en Europe ou au sein de l'OTAN. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là, pour les aider à faire en sorte que leur espace aérien soit contrôlé et qu'il n'y ait pas d'interaction de pays de l'Est ou du Sud, ou en particulier en dehors de l'OTAN, qui fassent ce qu'ils veulent, pour résumer, au-dessus de leur espace aérien.
Pourquoi ces missions sont si importantes? On sait que le territoire russe est seulement à quelques centaines de kilomètres et que l'Ukraine est en guerre.
Alors quand on discute un peu avec la population locale, ils ont conscience que le fait qu'on soit ici, ça les rassure un peu, surtout quand on voit la situation géopolitique actuelle, d'être un peu rassuré par rapport aux activités à l'Est. La Lituanie a fait partie de ces pays qui ont été, en tout cas eux considèrent qu'ils ont été annexés de nombreuses fois et pendant des longues périodes, et ils ont quelque part un peu, quand on parle avec eux, ils ont un peu peur qu'il y ait ce retour de, on pourrait parler d'invasion ou d'occupation de la Russie en l'occurrence, qui reviendrait au goût du jour.
Alors vous êtes équipé, prêt à partir, mobilisable, en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes équipé de quoi ?
La particularité ici, c'est la météo et le climat qui est relativement froid, aussi une mer qui est plus froide que ce qu'on peut avoir en France. Et donc on va emporter certains équipements particuliers, comme la combinaison étanche, qui permet de se protéger contre le froid de l'eau qui pourrait être prégnant si jamais on était amené à atterrir dans l'eau. Et en plus de ça, on va prendre tout l'équipement standard d'un pilote de chasse, Rafale en particulier, avec une combinaison, un pantalon anti-G, donc pour résister aux facteurs de charge, ce qu'on appelle une MEWEST, un gilet de survie, avec pas mal d'équipements de survie, de signalisation, de survie primitive, pour pouvoir, en cas d'éjection, résister ou se signaler. Et également un casque, donc forcément pour les communications, pour la protection en cas d'éjection, tout ce qui pourrait arriver.
La sonnerie peut retentir ici dans le camp. Si ça sonne, qu'est-ce qui se passe pour vous ?
Si ça sonne, en général, ce qu'on appelle dans les missions type Alpha Scramble, on ne sait pas pourquoi on est scramblé. Donc notre première réaction, ça va être d'aller le plus rapidement possible aux avions avec notre équipement complet pour être capable de mettre en route, commencer à rouler et décoller. Ça, c'est notre objectif numéro un au moment où ça sonne. Et on ne sait pas encore pourquoi ça a été déclenché à ce moment-là. Toutes ces informations, on va les avoir au fur et à mesure du vol, où on va apprendre la raison pour laquelle on a décollé, quelle va être notre mission et sur quoi on va devoir intervenir.
Quel type d'intervention vous faites ?
Ici, dans les pays baltes, c'est tourné autour de la protection de l'espace aérien. Ça veut dire qu'on va surtout être là pour surveiller les aéronefs qui pourraient être amenés à survoler les zones de région aérienne ou même le territoire en lui-même, et être un peu les yeux, les oreilles, et si besoin, bien évidemment, le bras armé des centres de commandement. Faut imaginer qu'au sol, il y a des radars qui vont surveiller la situation aérienne avec les différents transits qu'il peut y avoir au-dessus de la région. Et on va être déclenché lorsqu'il y a une situation de doute, pour résumer. Et cette situation de doute va apparaître lorsqu'il va manquer les éléments normaux de contrôle aérien. Ça peut être le transpondeur, pas de transpondeur comme affecté, comme tous les avions civils peuvent avoir, quel que soit leur vol. Où il n'y aura pas de contact radio avec le contrôleur qui est en charge de cette région, ou pas de plan de vol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préavis d'un aéronef qui transiterait à travers une zone par différents points. Et c'est là qu'il va y avoir un doute qui va se créer, que les contrôleurs vont se demander concrètement, ok, c'est quoi ce contact radar qu'on a, et c'est là que nous, on pourrait être amené à intervenir pour aller confirmer l'identité de ce contact radar.
Certaines de vos missions sont couvertes par le secret défense. Mais il y en a une que vous pouvez nous dévoiler, c'était le 16 décembre dernier.
On va juste reprendre la question après, je vais juste écouter ce qui se passe. Bon là, c'est anodin, mais effectivement, on reprend du 16 décembre. Pour reprendre votre 16 question, il y avait, comme vous entendez là, un appel sono, le déclenchement officiel. On arrête ce qu'on fait et notre seul objectif, c'est de prendre nos équipements, d'aller à l'avion et de démarrer le plus rapidement possible pour pouvoir décoller. Et on s'est retrouvé derrière un contact radar. Je vais détecter quelque chose, une piste. On va avoir différents capteurs, ça passe par des caméras, puis par une observation visuelle directement. On s'est dirigé vers lui pour confirmer l'identité de ce que ça pouvait être. Et puis là, on sait que okay, c'est le bon endroit, c'est corrélé avec ce que nous dit le contrôleur. Et là, on va se diriger dessus. Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé, à différencier par rapport à un transporteur. Donc là, on commence à prendre certaines mesures un peu différentes parce que forcément, on ne va pas aborder un chasseur qui peut potentiellement être armé. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais il peut être armé par rapport à un transporteur qui aura une capacité de manœuvre moindre. Et donc, on continue à se rapprocher. On l'identifie au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on a les informations, ça passe par la taille, le type de dérive, avec on arrive à la couleur, on arrive avec l'immatriculation, le fait qu'il ait des choses particulières ou pas sous les ailes. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'armement. Mais on va pouvoir aller dans le détail pour donner toutes ces informations au centre de commandement et les informer sur qu'est-ce que c'est. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34 qui transitait depuis Kaliningrad vers la Russie en passant par la mer au large des Pays-Baltes. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Donc on ne va pas chercher à se mettre en danger. Pour ça, on va prendre toutes les mesures pour au cas où il se passerait quelque chose.
Vous êtes face à ce bombardier russe. Quelle attitude vous adoptez?
L'attitude, elle est neutre. C'est notre objectif de faire en sorte qu'il n'interprète pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Ce n'est pas la distance forcément qui va impacter le côté pacifique ou hostile. C'est plus notre façon de manœuvrer l'avion, ou notre positionnement, ou tout ce qu'on peut faire par rapport à lui. Là, on a beau se rapprocher à quelques mètres, pas à pas, progressivement. On ne connaît pas sa réaction, on n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour l'identifier, mais sans vouloir se battre, pour résumer, contre lui.
Est-ce que vous pouvez voir le visage des pilotes russes?
Donc nous, à ce moment-là, on est, oui, effectivement, à quelques mètres de l'appareil. C'est quelque chose auquel on s'entraîne tous les jours. Alors je pense que je vais parler de quelque chose qui parle à tout le monde, c'est la patrouille de France, quand on voit comme ils sont prêts. Mais en fait, c'est les bases de l'entraînement des pilotes de chasse, de se rapprocher de manière sécurisée d'un avion pour pouvoir évoluer et faire face à tout ce qu'ils pourraient faire. Moi, je le vois, je vois son cockpit, et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent, et effectivement, il y a eu des échanges de regards. Il y a eu un salut, on va dire, au départ. Il y a toujours eu, malgré des différences de point de vue au niveau des nations, un certain respect dans la communauté internationale des pilotes de chasse. Satisfait de la mission qu'on va accomplir, et une fois qu'elle est réussie, content de l'avoir réalisée de manière sécurisée, safe, et d'avoir apporté les renseignements qui étaient nécessaires pour les centres de commandement.
Est-ce qu'il y a des craintes, est-ce qu'il y a des appréhensions, vous, quand vous faites ces missions?
Il y a toujours une petite part d'appréhension parce que ça reste quelque chose de réel. Les gens en face, quand on parle de cet exemple-là, par exemple, le russe, on n'a pas de communication avec lui, on n'a pas d'entraînement commun, on n'a pas de choses particulières qui pourraient faire qu'on connaisse nos procédures. On va rester le plus souple possible. Il y a l'appréhension, elle est plus dans... on ne connaît pas sa réaction, on ne sait pas comment il va réagir, donc on va faire comme à l'entraînement et prendre des marges avant de se rapprocher.
Vous êtes habituellement stationné en France sur la BA-118 de Mont-de-Marsan. Vous avez été déployé, par exemple, pour des opérations extérieures, Chamal en Jordanie, avec des avions français Rafale qui sont intervenus en Syrie et en Irak. En quoi, ici, ces missions sont différentes de ce que vous avez connu avant ?
Le contexte est différent. La mission pour laquelle on est déployé est différente en Irak et en Syrie en fonction des phases qu'il y a eu dans la guerre. Alors si on reprend à l'origine la guerre contre Daesh, on est passé d'une phase de reprise du territoire puis à une phase de consolidation d'aide aux pays en question. Ici, on est dans de l'aide au maintien à la souveraineté des espaces aériens. Si je reprends l'exemple du Moyen-Orient il y a quelques années, c'était surtout de l'appui des troupes au sol. Donc là, on parlait pas seulement de l'espace aérien, qu'on maîtrisait quand même, mais on parlait de troupes au sol qui essayaient d'avancer sur un front que nous, on allait soutenir. Personnellement, il n'y a pas de mission que je préfère ou pas. Chaque mission a sa spécificité. Il y a des montées d'adrénaline, je pourrais dire, qui sont différentes, mais qui arrivent à chaque fois. Quand on arrive sur... Je prends l'exemple du Moyen-Orient, mais on arrive sur un théâtre où on voit des troupes au sol qui sont en train de se faire tirer dessus et qu'on a besoin de les soutenir. Oui, là, il y a une montée d'adrénaline. Mais dans le même sens, ici, quand on arrive et qu'on ne sait pas pourquoi on décolle et qu'on nous dit petit à petit qu'on va retrouver un avion russe, eh ben, c'est pareil, on ne sait pas comment il va réagir. L'adrénaline est un peu différente, le niveau de stress est peut-être un peu différent parce que les conséquences derrière peuvent être un peu différentes. Mais il y a toujours, quelle que soit la mission, quel que soit le théâtre où on est déployé, il y a toujours voilà, ce petit stress, cette petite adrénaline qui est prégnante. Ça va paraître peut-être un peu simpliste ou humble, mais en fait, on fait juste notre travail de pilote de chasse, on est formé pour. La particularité actuellement, c'est que le Rafale, il est fait pour faire, alors c'est une chance, hein, mais il est fait pour faire l'ensemble du spectre des missions où la France intervient. Et c'est pour ça que, enfin, je parlais des différents exemples, mais on va faire aussi bien des missions en appui des troupes au sol, des missions d'attaque sur différents sites, que des missions de soutien. Mais on pourrait aussi déborder sur, en France, par exemple, des missions d'assistance. Par exemple, avec un aéronef qui est un aéronef même civil, hein, ou d'aéroclub qui serait perdu au-dessus d'une couche de nuages qu'on va assister pour l'aider à se poser de manière safe.
Vous arrivez sur la fin de votre mission, vous avez passé ici 2 mois. Quel enseignement vous en retirez?
À titre personnel, c'est l'accueil des Lituaniens qui a été intéressant. On sent qu'il y a un petit côté chaleureux et reconnaissant du fait qu'on vienne les aider dans la mission qu'on a à faire ici. Même si c'est dans le cadre de l'OTAN, c'est assez marquant pour eux. Et puis à titre professionnel, ou intervenir sur des avions russes, c'est relativement rare. Et donc il y a un petit côté effectivement expérience et on aura des choses à raconter en rentrant en France.
Merci beaucoup.
Mais avec plaisir. Et bonne journée.
Et si vous avez aimé cet épisode hors série de Focus, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.